Bonjour à tous, je suis Caroline Dubois, l'hôtesse de cette seconde édition du Sommet mondial de la réussite. Si vous voulez connaître le système qui permet de réussir et si vous voulez accélérer le chemin vers votre succès, vous allez rencontrer la personne idéale pour vous le dévoiler. J'ai l'immense joie de vous présenter l'énergique et fabuleux Laurent Marchand. Laurent est auteur, éditeur, conférencier et entrepreneur. Il est aussi le créateur du site soyezheureux.com. Ce site rassemble des coachs sélectionnés pour leur spécialité à aider les gens à sortir des problématiques de leur quotidien dans tous les domaines. Il vit dans le ghetto des banlieues parisiennes, dans des situations difficiles voire violentes. Laurent a toujours gardé, chevillé au corps, une confiance inébranlable, toujours intacte aujourd'hui. Lors de cette conférence, Laurent va vous guider avec cette foi inébranlable vers le secret qui va radicalement changer votre vie et vous aider à progresser de manière rapide et constante. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Je vous offre le secret qui va changer votre vie et joignez-vous à moi pour accueillir Laurent Marchand. Bonjour Laurent.
Bonjour Caroline.
Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui ?
Eh bien, très humblement, je me suis dit que je pourrais offrir aux auditeurs du Sommet mondial de la réussite le secret qui va radicalement transformer leur vie. Bon, d'abord, avant de démarrer, je voulais te remercier, Caroline, pour l'accueil et pour la confiance que tu me confères. Merci beaucoup de m'inviter pour ce deuxième Sommet mondial de la réussite. Je suis vraiment très, très heureux d'être ici avec toi et avec tous les auditeurs qui sont en ligne, qui nous écoutent et qui nous écouteront.
Ok, et donc qu'est-ce que tu as prévu au programme alors cette fois-ci? Alors, c'est quoi ce secret que radical?
Je te vois pressé, mais tu as raison, c'est vraiment quelque chose qui est tellement, à la fois tellement important et puis est tellement simple que tout le monde est toujours pressé de l'avoir. Donc avant de démarrer sur ce secret qui va radicalement transformer votre vie, je voudrais exprimer déjà la raison profonde en ce qui concerne le choix de ce thème, de cette deuxième conférence, parce que c'est quand même pas anodin. En fait, l'année dernière, après la première conférence du Sommet mondial de la réussite, j'ai reçu des centaines de témoignages et de remerciements. Alors, j'ai reçu sur mon Facebook, j'ai reçu sur mes mails personnels, j'ai retrouvé mon adresse personnelle, il y avait des centaines de messages sous la conférence qui a été diffusée sur le site du Sommet mondial. Et en fait, tous ces témoignages m'ont vraiment touché. Et déjà parce que ce sont des marques de sympathie qui sont toujours agréables à entendre, de reconnaissance aussi. Mais avant tout, j'ai été vraiment très surpris que les gens me remercient, et c'est arrivé dans 80% des cas, pour l'exercice de l'appartement. En fait, les gens étaient très très impressionnés par l'effet de l'exercice et par la transformation radicale de la perception qu'ils avaient de leur situation. Je fais un court rappel pour les auditeurs qui n'ont pas écouté la première conférence. En fait, pendant cette première conférence, je faisais un exercice il y avait deux exercices exactement qui concernaient l'appartement. Le premier exercice, c'était un exercice dans lequel j'expliquais que quand j'étais dans une situation vraiment difficile et pour éviter de constamment regarder le manque, en fait, je me concentrais sur ce que j'avais. Et quand on tournait dans l'appartement avec ma fille, on était tous les deux dans un appartement vide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de meubles. Et on se disait, chouette, il y a de l'électricité, chouette. On a un toit, chouette, on est dans une ville agréable, chouette, on a un joli canapé, voilà. Et donc ça, c'était le premier exercice, et ça, les gens ont vraiment trouvé ça vraiment extraordinaire. Ils m'ont dit, mais ça, cette vision-là, le fait qu'on se réjouisse de rien, chouette, on a de l'eau qui coule du robinet, ça leur a fait du bien. Et il y avait un deuxième exercice, c'était un exercice de méditation guidée à travers lequel je disais, voilà, vous vous réveillez dans la maison de vos rêves, vous êtes dans la chambre de vos rêves, à quoi ça ressemble, quelle est voilà la texture des draps, le design des meubles, comment c'est, etc. Et je faisais progresser les gens dans un appartement qui était leur appartement de vie idéal, et ils s'habillaient, ils étaient avec leur conjoint ou leur conjointe, et ça aussi, ça a fait beaucoup, beaucoup de bien aux auditeurs. Et ensuite, dans les ateliers par exemple, ou dans les d'autres conférences, les gens sont carrément venus me voir et m'ont dit des choses aussi magnifiques que ces exercices ont transformé ma vie, ou bien J'ai décidé de me prendre en main, de tout construire pour vivre ce qui est vraiment important pour moi. Et le plus heureux, évidemment, c'est qu'ils y arrivaient. Donc il y a certains qui sont, j'en ai rencontré qui passaient des certifications pour devenir coach. Ça faisait à peu près 10 ans ou 15 ans qu'ils y pensaient, ils n'osaient pas le faire. Et ils se sont lancés, ils se sont certifiés, ils ont ouvert leur cabinet de coaching. Ça fonctionne parce qu'ils ont vraiment décidé de mettre les choses en place dans leur vie qui correspondaient à leur projet professionnel idéal. D'autres qui ont déménagé pour aller vivre là où ils voulaient. D'autres qui se sont engagés dans des relations amoureuses. Enfin, d'autres encore qui se sont mis en action pour construire leur projet de vie. Et bref, ça n'a pas suscité que des j'aimerais bien, ça a aussi suscité pas mal de je passe à l'action et de j'obtiens des résultats, et ça c'est vraiment très très important pour moi, d'une part parce que ça validait le contenu de la conférence, qui était quelle est la nature du carburant que vous utilisez pour faire fonctionner votre cerveau, mais surtout ça validait le fait que tout le monde peut réussir, il suffit juste de changer de carburant, quoi. Il suffit juste d'alimenter le cerveau et l'irrépressible besoin de l'être humain d'évoluer, de changer ce carburant-là avec quelque chose de positif, d'énergie qui correspond véritablement à ce qu'on veut. Donc l'impact de ces deux exercices m'a motivé pour à la fois faire mieux que l'an dernier, mais essayer aussi de synthétiser la réflexion de la réussite à sa plus simple expression. Alors c'est très très ambitieux, hein, mais je pense que j'y suis arrivé au moins en théorie. Et aujourd'hui, donc je vais essayer d'expliquer cette synthèse, mais qui est finalement extrêmement simple et incroyablement efficace pour absolument tout réussir dans votre vie. Voilà. Donc l'objectif, c'est de permettre aux auditeurs du Sommet Mondial de la Réussite, donc à vous qui nous écoutez, de mettre en place facilement, rapidement, des actions qui vous portent vers plus de confort, vers plus de réussite personnelle, professionnelle, sentimentale, familiale, financière, tout ce que vous voulez vraiment. Parce que ce secret concerne évidemment la réussite, mais ça concerne, s'il est appliqué à d'autres domaines de la vie, ça concerne tous les autres domaines de la vie. Et c'est pas tout. À la fin de cette conférence, je vais vous expliquer comment mettre en place réellement dans votre vie, ce qui jusque-là n'aura été que théorique puisqu'on n'aura fait qu'en parler pendant la conférence. Et donc, je vais vous offrir un programme gratuitement à télécharger sur mon site et ça vous aidera à progresser pas à pas et à poser les actions dont on va parler pendant une heure pour transformer votre vie et depuis l'état qui ne vous satisfait pas à celui qui vous convient vraiment, que ce soit un état financier, sentimental, familial ou personnel. Bref, de toute façon, quel que soit le domaine pour lequel vous posez ces actions, de toute façon vous obtiendrez les résultats que vous voulez. Alors, évidemment, ce secret, j'aimerais que pendant cette conférence, tout le monde le comprenne bien. Donc Caroline, si tu veux bien, je compte sur toi pour m'arrêter, ou si tu comprends pas, ou si je m'embrouille, si je dis n'importe quoi, parce que ça peut arriver, hein. Des fois les choses sont tellement simples pour moi que je les exprime mal, mais l'idée c'est pas simplement de les exprimer, mais qu'elles soient comprises. Donc arrête-moi si c'est pas clair. Pose-moi des questions, même si c'est embarrassant, du moment que moi, bah, du coup, ça m'oblige à être plus explicite et que les gens qui écoutent cette conférence au Sommet Mondial de la Réussite comprennent vraiment le secret qui va transformer leur vie. Alors, si t'es OK, on peut y aller.
Eh bien, tu y vas. Tu peux y aller. Je t'interromprai si nécessaire, mais en général, c'est assez clair, je comprends. Mais je vais faire celle qui comprend le pas trop, oui, oui. Pour voir. Voilà.
J'ai besoin d'un candide réfractaire, on appelle ça. C'est
d'accord.
Quelqu'un qui va dire, ah oui, mais c'est sûr, voilà, j'ai vraiment besoin de ça. Et voilà, je sais que tu as une grande intelligence pour te mettre aussi à la place des auditeurs et pour me donner du grain à moudre, et pour ça, ça fera du bon pain pour les auditeurs. Donc
voilà,
on y va.
Voilà.
Alors, ce secret tient en trois points. Les trois points, ce sont la maîtrise des processus, l'expression de la demande et la perception verticale du temps. Alors là, tout de suite, on peut considérer que c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir à quel point c'est simple. Je vais les prendre un par un et vous allez voir à quel point c'est simple. Tout est une question de bon sens. Caroline, tu as rencontré Luc-Marie Elissalde, qui est mon binôme avec lequel je fais les ateliers. Avec Luc-Marie, à chaque fois qu'on nous demande c'est quoi votre méthode, on dit toujours c'est la MDBS. Et c'est la méthode du bon sens. Alors à chaque fois, MDBS, ah oui, c'est quoi? C'est américain, tout le monde se pose des questions. Et en fait, il n'y a pas de méthode américaine plus qu'africaine ou autre chose. C'est une méthode universelle, c'est la méthode du bon sens. Et à chaque fois qu'on applique quelque chose qui va normalement transformer votre vie, ou à chaque fois qu'on vous propose à vous, auditeurs, un atelier ou n'importe quoi qui va transformer votre vie, à partir du moment où c'est exempt de bon sens, où il n'y a pas de bon sens, voilà, prenez les gens dans votre cou, sortez tout de suite. Le bon sens, c'est la vérité universelle. Et cette vérité universel, il n'y a que ça pour faire progresser les gens. Hein. Donc voilà, on n'est pas des maîtres, on n'est pas des gourous, on n'est pas des gens plus intelligents que les autres. Simplement, on applique des méthodes qui sont des méthodes du bon sens. Et avec ces méthodes-là, tout le monde peut progresser, vous, moi, n'importe qui. Donc on va commencer par le premier point, c'est la maîtrise du processus. Alors la maîtrise du processus, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut se rendre compte que les gens passent leur temps à se demander comment. Donc c'est comment je peux obtenir ceci, comment je peux obtenir cela, comment je vais faire pour faire ça, comment je peux avoir un job qui me convient, comment je peux vivre une belle vie avec mon chéri ou ma chérie, comment je dois faire pour rencontrer un tel ou une telle pour ceux qui veulent créer des réseaux, comment je peux faire pour gagner telle somme d'argent pour être très très pratique. Comment, c'est toujours cette question comment. Pourtant, à l'échelle de sa vie, chacun sait que tout ce qu'il a vécu répond à une logique toute simple qui est celle des causes et des conséquences. En fait, on récolte toujours ce que l'on a semé, jamais rien d'autre. Alors, vous qui nous écoutez, à chaque fois que vous vous êtes demandé comment et que vous avez passé dans votre vie des périodes qui étaient un peu compliquées parce que vous saviez pas véritablement quelles actions il fallait poser pour obtenir quel résultat, finalement, vous vous êtes toujours, et si vous vous concentrez un peu sur ce qui s'est passé dans votre vie, vous vous êtes toujours glissé dans un processus et le processus a toujours donné le résultat qui convenait à ce que vous aviez semé. Quelle que soit la nature des résultats qu'on obtient, que ce soit une rupture sentimentale, un amour partagé, une cohésion professionnelle parfaite, une somme d'argent sur un compte en banque, une bagarre dans un bistrot, ça va être n'importe quoi. Ce résultat est toujours conforme à ce qui a été semé consciemment ou inconsciemment, mais toujours, il n'y a absolument jamais d'exception, quoi qu'on en pense. Et faisons une analogie assez simple. Si vous mettez de la terre dans un pot, puis une graine de rose dans la terre, et que vous arrosez régulièrement, et que vous exposez le pot à la lumière dans des conditions adéquates, vous obtenez un rosier. Jamais, jamais, vous n'obtiendrez des pétunias et des carottes. Jamais. Et vous êtes... Ce processus, j'aime m'en servir parce que je sais qu'en face de moi, ou je sais que les auditeurs sont en train de se dire « évidemment ». Mais en fait, c'est pas si évident que ça. Ce qu'on applique à cette analogie de la graine plantée dans la terre, c'est exactement la même chose qui se passe dans notre vie tout le temps. Donc jamais vous n'obtiendrez des pétunias ou des carottes en plantant une graine de rose. Et jamais, même si vous arrosez 3 fois par jour ou 10 fois par jour, même si vous changez la qualité de la terre, même si vous changez l'exposition à la lumière, jamais ce sera toujours un rosier. Et c'est pareil pour toute chose. Même si vous ne savez pas comment se transforme une graine pour devenir un rosier ou un séquoia de 30 mètres de haut, vous avez la certitude que le processus est fiable. Vous savez que la graine de rosier donnera un rosier. Vous savez que la graine de séquoia donnera un séquoia. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'être botaniste pour planter une graine. En revanche, il est important de savoir qu'il y a un processus à respecter et d'avoir confiance dans ce processus, même si vous ne savez pas comment il fonctionne. Le processus existe et pour vous, comme pour n'importe qui sur cette planète, il fonctionnera de la même façon. Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre dans ce premier point. Dans la relation amoureuse, tiens, on va faire un exercice assez simple. Par exemple, si je rentre tous les soirs et que je dis à ma femme, on va s'amuser un peu. Si vous rentrez tous les soirs, messieurs, et que vous dites à votre femme, salut la grosse, qu'est-ce qu'on mange ? D'après vous, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'elle reste votre femme très longtemps ? Là, personnellement, j'en suis pas sûr. Et je sais que vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas sûr non plus. Je me souviens d'une coachée qui m'avait confié qu'elle s'était séparée de son mari parce que le soir, quand il rentrait du travail, il disait toujours bonjour au chien avant de lui dire bonjour à elle. Et elle avait beau lui dire qu'elle était affectée par ça, je souris aujourd'hui, mais c'était pas très drôle pour elle, mais elle avait beau lui dire qu'elle était affectée par ça, il changeait pas. Pour autant, les habitudes, à chaque fois, il rentrait, il disait toujours bonjour au chien et ensuite, il disait bonjour à sa femme. Donc, évidemment, comme pour toute chose, le processus s'est appliqué et il a obtenu le résultat adéquat, c'est-à-dire qu'elle a pris ses valises et elle est partie, quoi. Donc, en fait, il a semé une attitude, le processus a fait son travail et donc, il a obtenu un résultat. La maîtrise du processus, c'est le fond de ma conférence qui était celle de l'année dernière au Sommet mondial de la réussite en 2011. C'était « Peu importe ce que l'on sème, on obtiendra toujours le résultat correspondant. Le processus ne change jamais. Et il est absolument impératif d'avoir confiance dans le processus, parce que c'est un processus, c'est un développement qui est universel, qui sera toujours le même développement pour les uns et pour les autres. Pour finir sur ce point, on va prendre des exemples précis, et vous allez voir que spontanément, tout le monde fait confiance a priori au processus. Tout le monde connaît l'impact du processus. Donc par exemple, si chaque jour, je viens au travail en pensant « je vais passer une journée avec une bande de crétins notoires, ça va être pénible, je vais sortir tard, je vais pas avoir le temps de m'occuper de moi », d'après vous, qu'est-ce que je vais obtenir ? Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que je vais obtenir avec une attitude comme celle-là ? Si par exemple je me dis « aujourd'hui, je mets le meilleur de mes capacités au service de cette entreprise » et le meilleur de moi-même au service de la relation avec mes collègues. C'est un exemple. D'après vous, qu'est-ce que je vais obtenir ? Si je dis régulièrement à ma conjointe, mon ange, ma chérie, Caroline, mon amour, tu es une femme exceptionnelle, plus j'apprends à te connaître et plus je suis heureux de partager mon temps avec toi, d'après vous, qu'est-ce que je vais obtenir ? Si je dis régulièrement à ma conjointe, dis donc, t'as pris du poids toi ? Ah bon ? T'as même pas pris un petit kilo ? Non, attends, c'est fou ce pantalon, ça fait des énormes fesses. D'après vous, qu'est-ce que je vais obtenir ? Mais en fait, il faut être absolument clair avec ça. Il ne faut pas se voiler la face. On dit des choses, on s'engage dans un processus, et ce processus a un résultat. C'est pareil pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Donc, si je me dis à moi-même, chaque jour, à chaque instant, je vais de mieux en mieux. Je me mets au service de l'intelligence, de la joie de vivre, de l'enthousiasme, de la sincérité, de l'amour. Qu'est-ce que je vais obtenir ? Et c'est toujours ces questions qu'il faut se poser. De la même façon, si je me dis « je suis nul, je suis moche, franchement, qui c'est qui va vivre avec un boulet comme moi ? En plus, je suis stupide. » Là, pareil, qu'est-ce que je vais obtenir ? Et donc, c'est pas une question de mots, c'est vraiment une question d'intention, c'est vraiment une question de se mettre dans un processus. Par exemple, si je dis à ma femme les mots de tout à l'heure, mais avec le plus grand des cynismes, ben dis donc, quelle femme exceptionnelle, hein, super, hein, plus je te connais, plus je suis heureux de partager mon temps avec toi. Bon là, c'est pareil, le cynisme, c'est rentrer dans un processus, même si les mots pourraient avoir l'air positifs, le fond, l'intention est négative, qu'est-ce qu'on obtient ? Donc voilà, ce qui est important de constater à travers cet exercice-là, c'est que... Si plusieurs milliers de personnes nous écoutent en ce moment, et j'imagine que c'est le cas, et que ces gens sont éparpillés dans tous les coins du globe, eh bien, on peut être sûr, les uns et les autres, que tout le monde, je dis bien tout le monde, imagine le même résultat. Parce que tout le monde connaît, même inconsciemment, la valeur du processus. C'est ça vraiment qu'il faut retenir dans ce premier point. Il faut avoir confiance dans le processus, il faut avoir déjà conscience du processus et avoir confiance dans le processus, et se dire que de toute façon, à chaque fois, quoi qu'on fasse, ce processus se mettra en route et on obtiendra le résultat de la graine qu'on a semée. Le processus est absolument immuable et il va irrémédiablement de la cause à la conséquence. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Est-ce que je suis claire, Caroline ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier ?
Non, je trouve que ce premier point est extrêmement clair.
Bon, parfait. Alors, on va pouvoir passer au deuxième point qui se trouve être l'expression de la demande. Alors, l'expression de la demande, en fait, c'est la graine. C'est la graine qu'on va planter. Donc, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Alors, qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est une question particulière. La plupart des gens se demandent qu'est-ce que je veux ? Mais en fait, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Comment je l'exprime aux autres ? Et comment je l'exprime à moi-même ? Les gens passent beaucoup de temps à faire état de ce qu'ils ne veulent pas ou de ce qui ne leur va pas. Je suis trop pauvre, je suis trop seul, je suis trop gros, je suis trop grosse, je suis trop moche, je suis trop bête, je suis trop malheureux, je suis trop malheureuse. Mais attention parce que il n'y a pas que ça. Moi j'ai vu des états qui sont beaucoup plus positifs, enfin on peut considérer qu'ils sont beaucoup plus positifs, mais ils sont tout aussi frustrants. Je suis trop sollicité sexuellement. On peut trouver que c'est positif, il y a certaines personnes qui ne sont pas suffisamment sollicitées sexuellement qui vont dire « bah moi je m'en plaindrai pas ». Mais en fait, quand on rêve d'une relation stable, quand on rêve de tendresse, quand on rêve d'amour, bah franchement, c'est terrible d'être sans arrêt sollicité que pour l'idée sexuelle que les gens peuvent se faire de vous. Il y a d'autres gens qui disent « je suis trop doué ». Alors « je suis trop doué », c'est vrai que ça peut paraître assez prétentieux, mais en fait pas du tout. Quand on est affecté à des tâches subalternes dans une entreprise et qu'on vit très très mal le fait qu'on a des capacités qui ne sont pas exploitées et dont les gens avec qui on travaille ne veulent pas exploiter, c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai travaillé avec, je me rappelle, dans mes jeunes années, j'ai travaillé, je distribuais des fax et des photos, et je faisais des photocopies dans une banque d'affaires, et je travaillais avec un jeune homme qui était quasiment aussi diplômé que tous les traders qui étaient autour de nous, sauf qu'il distribuait les fax avec moi. Alors moi, j'avais fait des études assez maigres, donc j'étais plutôt satisfait d'être là, je trouvais que c'était même plutôt chouette pour moi, parce que ça me permettait de rencontrer des gens un peu intéressants. Mais lui, il se sentait trop doué, il disait tout le temps, je suis trop doué, je suis trop intelligent pour faire ça. Et on pouvait considérer que c'était vraiment prétentieux de sa part. Mais en réalité, il était dans une énorme souffrance. Et c'est pareil, il y a des gens qui se disent je suis trop intelligent pour les gens que je fréquente. Et c'est vrai que quand on n'est pas compris, ou quand on est critiqué pour des convictions qui nous sont fortes, et je sais que parmi les auditeurs, il y a des centaines de milliers de gens, des millions de gens, des dizaines de milliards de gens qui se disent bah ouais, mais moi, dans ma famille, on comprend pas la passion que j'ai pour le développement personnel, ou on comprend pas mon envie d'avoir une vie spirituelle. Et en fait, on se dit, mais il y a quelque chose que j'ai compris, que les autres n'ont pas compris, et effectivement, on se trouve trop intelligent, on se trouve un petit peu plus évolué que les autres, et quand on n'arrive pas à partager cette passion pour la spiritualité ou le développement personnel, mais ça peut être pour la collection de timbres, hein, peu importe, c'est vraiment aussi très très difficile à vivre. Et puis là, l'exemple le plus courant, c'est quand même « je suis trop gentil », et quand on a le sentiment que cette gentillesse est une occasion pour les autres de nous malmener ou de profiter de nous, là c'est vraiment très, vraiment affreux, quoi. Il y a des tas de gens qui renoncent à la gentillesse, qui décident de se blinder parce qu'ils se trouvent trop gentils, juste parce qu'ils sont en face de gens qui en profitent, quoi, simplement. Donc ce sont vraiment des états qui génèrent de la souffrance, et donc ce sont eux qui sont exprimés. La plupart du temps, ce sont ces états-là qui sont exprimés. Mais l'expression de cette souffrance ne sert à rien, parce que le processus, qui lui est toujours le même, apporte toujours le même résultat. Pour preuve, si je répète tout le temps « je suis trop moche, je suis trop moche, je suis trop moche », qu'est-ce qu'il va obtenir ? Qu'est-ce que je vais obtenir ? Voilà, j'ai pas besoin d'y répondre, tout le monde le sait. Je sais que, en ce moment, qui écoute cette conférence a exactement la même idée sur le résultat. Donc pour que l'expression de la demande soit juste, il faut exprimer non pas la raison de la frustration, mais bien l'essence de ce qu'on veut obtenir. Je suis riche. Je saisis toutes les occasions de m'enrichir financièrement. J'embellis chaque jour un peu plus ma vie. Je retrouve mon poids idéal, je suis svelte, je suis en pleine santé, je suis fier de moi quand je me regarde dans la glace. Je mets mes capacités au service des gens reconnaissants, pour les gens trop doués là. Ou alors pour les gens gentils, on peut dire « je mets ma gentillesse au service d'amis sincères et reconnaissants ». Et là, Caroline, permets-moi d'insister encore une fois, partout dans le monde, tout le monde vient de corriger le résultat du processus. Tout le monde se dit « oui, évidemment, si on sème ces graines-là, alors on obtiendra un résultat différent ». Et en fait, là où le processus est encore plus incroyable, c'est qu'on n'a même pas besoin de se le dire. C'est comme logique, c'est d'une logique, c'est vraiment du bon sens. Si je sème, je saisis toutes les occasions pour m'enrichir financièrement, ou j'embellis chaque jour un petit peu plus ma vie, ou je vis avec des personnes qui m'aiment et que j'aime, alors là, forcément, on n'a pas besoin d'exprimer, on n'a pas besoin de réfléchir, on a tout de suite, instantanément, le résultat du processus qui nous vient à l'esprit. Donc ça, c'est vraiment très très important. Partout dans le monde, les gens viennent de corriger le résultat du processus, parce que partout dans le monde, ce processus est compris. Et on va terminer par des petits exemples. Donc par exemple, si vous voulez déménager, alors ça c'est un exemple que j'ai vu très très souvent, donc c'est pour ça que je parle souvent de cet exemple-là. Si vous voulez déménager, parce que, je sais pas, votre logement ne vous convient pas, donc ne faites pas des demandes en fonction de ce qui vous convenait pas justement dans ce précédent logement. Donc c'était sombre, alors vous voulez de la lumière, c'était bruyant, alors vous voulez du calme, les voisins étaient agressifs, alors vous en voulez des plus sympathiques, des plus agréables, des plus inoffensifs. Si vous faites comme ça, franchement, vous pouvez aussi bien vous retrouver dans une tente de camping au milieu du Larzac, et c'est parfait, puisqu'il y a de la lumière, c'est calme, et les voisins sont des moutons. Donc, a priori, les conditions seraient réunies pour vous satisfaire. Donc, il faut vraiment faire attention à ces demandes, il faut vraiment faire attention à la formulation de ces demandes, parce que des fois, le résultat du processus, ne correspondra pas du tout à ce que vous vouliez vraiment. En fait, ça correspond. Vous n'aurez plus les critères de ce que vous ne vouliez pas, mais ce n'est pas pour autant que vous trouverez les critères de ce que vous voulez vraiment. C'est arrivé à des amis, que vraiment des gens que j'aime beaucoup, qui étaient installés dans le centre-ville de là où je vis, qui est un centre-ville assez bruyant, parce que très très étudiant, et voilà, et voilà, c'est la fête tout le temps. Ils vivaient très très mal ce bruit permanent, et ils voulaient du silence, ils voulaient des voisins, on va dire, plutôt discrets, etc. Ils se sont retrouvés dans une espèce de banlieue où ils sont restés pendant 2 ans, et les deux ont fait une énorme dépression parce que c'était trop bruyant, les voisins ils ne les voyaient jamais, il ne se passait jamais rien, donc c'était vraiment une mauvaise expression de leur demande.
Et ils m'ont dit après... bruyant, c'était trop calme, tu veux dire?
Pardon?
Et quand ils étaient dans la banlieue, c'était trop calme?
Ah oui, c'était trop calme, c'était terrible.
Tu as dit c'était trop bruyant.
Ah non, c'était trop calme, oui, je me suis trompé, je te remercie de me reprendre. Oui, non, c'était effectivement trop calme, et en fait, mon ami venait régulièrement en ville et venait boire des verres chez moi en me disant, je comprends pas pourquoi je suis là-bas, pourquoi je suis là-bas. Au bout d'un moment, je lui ai dit, mais de toute façon, en fonction de quoi t'as choisi cet appartement, enfin cette maison? Visiblement, t'as choisi cette maison en fonction non pas de ce que tu veux, mais en fonction de ce que tu veux pas. Donc l'idée, c'est refais la liste de ce que tu veux vraiment, et trouve quelque chose qui te correspondra vraiment. Et donc elle a fait ça, 3 mois plus tard ils ont déménagé, et ils sont aujourd'hui au centre-ville, donc au milieu de la vie, du monde, tout ça, mais ils sont dans un endroit calme, dans un endroit qui leur convient vraiment, et là, ils sont dans l'expression de ce qu'ils aiment. Donc ils vivent au milieu de l'expression de ce qu'ils aiment, ils vivent au milieu de l'expression de ce qu'ils ont choisi et qui est bénéfique pour eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Quand on sait faire la demande, quand la demande est claire, et ben, le processus s'appliquant irrémédiablement, le résultat correspondant correspondra à ce qui a été semé. Alors, on va faire un petit exercice. Alors, ce petit exercice-là, je sais pourquoi je le fais, et je sais que tout le monde va tomber dans le panneau. Donc, je préfère vous prévenir d'abord, vous allez tous tomber dans le panneau. Donc, faites preuve de bonne foi avec cet exercice, et faites les choses tout à fait naturellement, et vous allez voir que comment ça va fonctionner, et comment on va tous bien rigoler. Si vous voulez un conjoint, comment vous allez l'imaginer? Alors, tous, toutes, qui êtes des hommes et des femmes de l'autre côté de vos ordinateurs, imaginez la personne idéale et à chaque fois, demandez-vous si ce qui vous conviendrait vraiment. Vous pouvez décider, par exemple, de trouver 5 critères qui sont vraiment les critères de ce qui vous conviendrait vraiment avec un partenaire idéal. Faites l'exercice, fermez les yeux, imaginez cette personne et imaginez les 5 critères qui vous correspondraient le mieux par rapport à cette personne idéale. Ok, vous en avez déjà au moins 3, il y en a 3 qui arrivent tout de suite. Essayez de vraiment visualiser, essayez de vraiment ressentir. Vous pouvez aussi avoir des images de situation. Vous pouvez avoir des images de, je sais pas, vous pouvez voir un voyage, vous pouvez voir des choses que vous partagez avec cette personne-là. Si vous avez vos 5 critères, j'imagine que bon nombre d'entre vous sont tombés dans le panneau, c'est-à-dire que les 5 critères sont « il est gentil, il est beau », où elle est gentille, elle est belle, elle est attentionnée, elle est ceci, elle est cela. En gros, vous êtes en train d'exprimer la liste de ce que vous avez vécu et que vous ne voulez plus. Vous êtes tombé sur des gens qui étaient... Vous savez qu'il y a des gens... Il y a une ribambelle de gens qui ne vous correspondent pas physiquement. Donc, vous en voulez un beau. Vous savez que vous avez vécu avec des gens égoïstes. Donc, vous en voulez des généreux. Vous avez vécu avec des gens qui étaient pas très sympathiques, donc vous en voulez des sympathiques. Et comme vous avez vécu avec des gens qui étaient pas forcément agréables au quotidien, vous en voulez des gens attentionnés. Et ça, c'est exactement la même chose que l'appartement quand on dit « il était trop sombre, j'en veux un lumineux, il était trop bruyant, j'en veux un calme », etc. Et vous allez vous retrouver, vous aussi, dans une tente de camping, au milieu du Larzac, avec des moutons. Donc, l'expression de la demande, quand il s'agit du conjoint, forcément ça ne peut pas être « il est brun, il a des yeux bleus, il est beau, il est attentionné », ça peut être « je partage avec lui des sentiments, je partage avec elle des sentiments sincères ». Je vis la tendresse, je vis la satisfaction, je vis... Puisque c'est un sentiment l'amour, ça ne peut pas correspondre à une personne physique. Et c'est là que tout le monde tombe dans le panneau. Donc on ne peut pas avoir d'amoureux idéal physiquement. On peut avoir une relation idéale. Et cette relation idéale, elle n'est pas définie en fonction d'un physique. Elle n'est pas définie en fonction d'une attitude. Elle est définie en fonction de ce que vous allez ressentir. On ne vit pas avec les gens pour qu'ils soient attentionnés. Moi, je connais des gens qui sont extrêmement attentionnés, vous en voudriez pas dans votre vie plus d'un quart d'heure. Parce que à côté de ça, ce sont absolument pas des gens qui auront envie de partager des choses avec vous, et eux, ils auront pas envie de, et vous, vous n'aurez pas envie de partager des choses avec eux. Donc en fait, il faut vraiment faire la part des choses et se dire, quand je fais ma demande, je ne fais pas ma demande en fonction de ce que je crois qui est bon pour moi, mais simplement ma demande en fonction de ce que je suis sûr que je veux vivre avec cette personne-là. Et le sentiment amoureux, c'est vraiment quelque chose où les demandes sont claires et elles sont forcément affectives. Je veux vivre la satisfaction, je veux vivre l'amour, je veux partager des émotions, voilà, je veux partager du plaisir sensuel, sexuel, etc. Quand on revient à la réussite, bah du coup, c'est exactement la même chose. On veut pas avoir de l'argent sur son compte, on veut avoir la satisfaction, on veut avoir l'épanouissement personnel, on veut avoir le sentiment d'exprimer son talent, on veut pouvoir jouir du confort matériel, on veut pouvoir s'acheter la voiture de nos rêves, on veut pouvoir conduire ou vivre dans un appartement merveilleux, et c'est toujours ça, en fait, l'argent, tout le monde s'en fiche, le résultat matériel, tout le monde s'en fiche, tout le monde veut réussir professionnellement, tout le monde veut avoir de l'argent, parce que derrière cet argent, il y a un sentiment de satisfaction profond. Et c'est ça qu'il faut demander. Il ne faut pas demander un job idéal, parce qu'on va vous donner un job idéal pour quelqu'un d'autre, ou alors on va vous demander votre job, on va vous donner votre, je dis on, hein, c'est la vie qui va mettre autour de vous des circonstances où vous allez vraiment trouver votre job idéal, mais dans un contexte qui vous plaît pas. Si vous aimez, par exemple, faire de l'informatique, et j'ai rencontré pas mal de coachés d'ailleurs qui m'ont dit ça, parce que j'ai un exercice sur mon site qui s'appelle Faites-vous le bon job dans les articles, et en fait c'est un questionnaire qui permet de révéler le talent des gens. Donc il y a plein de gens qui me disent, mais moi j'ai fait le questionnaire, j'ai répondu, effectivement, mon talent c'est le que je fais, mais je suis pas heureux. Et je dis, ok, très bien, et c'est parce que l'environnement dans lequel tu le fais n'est pas l'environnement adéquat qui te rendra heureux. Donc en fait, continue de vouloir être satisfait par le métier qui est ta passion, mais dans un contexte qui te convient vraiment, pas simplement l'exercer pour l'exercer, dans un contexte où les gens de toute façon ne te reconnaissent pas, de toute façon n'aiment pas ce que tu fais, etc., etc. Donc c'est vraiment, il faut pas aller chercher des conditions idéales extérieures, il faut vraiment aller chercher les conditions idéales intérieures. Et à chaque fois qu'on fait cet exercice-là, à chaque fois qu'on fait d'ailleurs cet exercice-là, d'abord avec les conjoints, toujours, toujours, tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde le portrait du prince charmant idéal ou de la princesse charmante idéale, alors qu'en fait, l'idéal, c'est ce qu'on va vivre intérieurement. Et pareil dans la réussite, l'idéal, c'est ce qu'on va vivre intérieurement. Donc, ne faites pas la liste de ce à quoi les gens doivent ressembler, de ce à quoi les situations doivent ressembler, mais plutôt la liste de ce que vous voulez vivre, de ce que vous voulez ressentir, de ce que vous voulez éprouver avec ce conjoint, avec ses collègues, avec ce patron, dans cette situation, dans cet événement, dans ce lieu, etc. Donc le job idéal, pas de liste de par rapport à ce que vous avez vécu avant dans d'autres jobs et qui vous convenait pas, mais plutôt la liste de tout ce que vous pouvez mettre au service d'une entreprise, en temps, en énergie, pour quelle contrepartie, à la fois humaine, à la fois financière, etc., etc. Donc, puisque le processus est immuable, il vous apportera ce que vous voulez vraiment, sauf si vous ne savez pas faire la demande, sauf si vous vous coupez du flux avec une mauvaise projection personnelle. Alors, la mauvaise projection personnelle, là, tout de suite, les gens vont se dire, voilà, qu'est-ce qu'il raconte. C'est le troisième point de cette conférence. C'est ce que j'appelle la verticalité du temps. Donc avant de poursuivre sur la verticalité du temps, Caroline, est-ce que sur ce deuxième point, il y a des questions? Est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris?
Non, j'ai parfaitement compris. J'ai juste qu'à propos de temps, je ne sais pas si c'est à sa verticalité ou autre chose, mais c'est juste pour dire qu'on est à plus ou moins à la moitié du temps de la conférence, comme ça te donne un peu une idée.
D'accord, bah c'est très bien parce qu'il nous reste la troisième partie, et cette troisième partie, comme elle est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus complexe, elle n'est pas plus complexe, en fait on en parle tellement peu que finalement les gens ont besoin de plus de temps pour y adhérer, de plus de temps pour la comprendre, et donc là on pourra faire vraiment un jeu de questions-réponses un petit peu plus intéressant sur ce troisième thème qui est la verticalité du temps, et qu'on va commencer à aborder tout de suite. Donc, la verticalité du temps, je vais vous dire exactement comme je le pense. Je pense que cette notion de verticalité du temps, c'est la révélation la plus incroyable que j'ai eue dans ma vie de coach, quoi. C'est, enfin, ce que je l'appelle le Saint Graal de la pensée créatrice. Vraiment, ma vie allait très bien. Quand j'ai commencé à mettre en place la verticalité du temps, d'un seul coup, j'ai vu encore mille fois plus d'opportunités. Les gens autour de moi ont bougé. J'ai rencontré des gens que je rêvais de rencontrer depuis très très longtemps. Tout a commencé à s'accélérer. Et la verticalité du temps, c'est incroyable, mais vraiment, vous allez voir. Enfin, j'espère que chaque personne qui nous écoute fera un jour l'expérience de la verticalité du temps, parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Celui qui parvient à entrer dans une notion verticale du temps obtiendra absolument tout ce qu'il veut, quelle que soit sa demande. Il obtiendra absolument tout ce qu'il veut, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais essayer vraiment d'être clair, le plus simple possible, et d'employer les mots les plus simples pour que tout le monde comprenne tout. Moi aussi, il a fallu un peu de temps pour que ça arrive jusqu'au cerveau, et je ne suis pas forcément plus intelligent que vous. Donc essayons d'être simples. Le concept du temps, c'est une invention humaine. On est d'accord avec ça ?
Oui.
C'est une invention, ouais, c'est une invention pratique. Ça nous a permis de maîtriser ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. En fait, ça nous aide à nous positionner au présent, ça nous aide à nous positionner dans l'histoire de notre vie. On sait qu'on a été, on sait qu'on est et on imagine qu'on sera. Et donc, ça structure le mental, ça structure la pensée. Le temps structure notre vie. Malheureusement, conceptualiser le temps, ça nous oblige à projeter une vision horizontale du temps. Donc, il y a le passé qu'on considère derrière soi, il y a le présent qui se situe là où on est, et le futur qu'on considère toujours devant soi. Donc là, j'imagine que tout le monde est OK. Passé, présent, futur, dans une idée verticale du temps, horizontale du temps, pardon, tout à fait simple. Jusque-là, c'est exactement ce qu'on vit. Et cette façon de voir nous oblige à faire sans cesse état du passé en vue d'appréhender le mieux possible le futur. La conséquence, c'est qu'au milieu de tout ça, et qu'en passant son temps à regarder derrière soi, à scruter le passé, et ensuite à regarder l'avenir, eh ben on oublie complètement d'être au présent. Alors, il y a eu beaucoup de livres là-dessus, Eckhart Tolle en a parlé avec le pouvoir de l'instant présent, tout le ici et maintenant, etc. On en parle, c'est quelque chose de très très théorique. Mais en fait, considérer la verticalité du temps peut être un exercice pratique extrêmement simple. Donc, est-ce que jusque-là ça va ? J'imagine que oui.
Oui,
ça va. Donc, ok, on continue. Donc, cette façon de conceptualiser le temps est devenue, par la force des choses et par sa structure même, l'unique source de nos problèmes. Je m'explique. Le fait d'avoir un solde négatif sur son compte en banque n'est pas en soi un problème. En fait, le problème, c'est que ça dure dans le temps. C'est ça le problème. C'est parce que ça dure dans le temps que ça devient un problème. C'est le fait qu'on se dise, ça fait 6 mois que je suis à découvert, je vais finir par avoir des problèmes avec ma banque. Ou bien, je n'ai pas intérêt à avoir ce découvert trop longtemps, sinon je vais avoir des problèmes avec ma banque. Ce que l'on fait, c'est qu'on va puiser une graine de problème dans le passé, ça fait 6 mois que je suis à découvert, et on la jette dans le terreau du futur. C'est, je vais finir par avoir des problèmes avec ma banque. Mais au présent, on n'a jamais de problème, il n'existe pas. Le problème de solde n'est pas un problème. Alors souvent on me dit, mais enfin si, Laurent, tu de quoi tu parles ? C'est un problème d'avoir un découvert, même au présent. Ce à quoi je réponds, ok, donc est-ce que c'est un problème d'avoir ton solde négatif au présent si tu sais que tu vas hériter de 15 millions de dollars dans 10 jours ? Et d'un seul coup, le problème disparaît. Parce que l'avenir projeté est positif. Donc les gens pensent que leur problème existe au présent, alors qu'en fait, il n'existe pas. C'est simplement la peur de ce qui peut se passer dans le futur qui les angoisse. C'est toujours le rapport au passé et les projections dans l'avenir qui posent des problèmes. C'est toujours ça qui crée des angoisses. À chaque fois, jamais vous vous dites « je n'ai pas mes clés, c'est un problème ». Non, c'est « et quand je vais rentrer chez moi, ce sera un problème ». J'ai plus d'essence, ou la jauge vient de s'allumer, pour, en soi, c'est pas un problème. Vous avez de l'essence encore. La jauge vient juste de s'allumer. Mais par ailleurs, l'angoisse vient du fait que vous dites, il n'y a pas de station-service avant 450 km et je suis dans le désert. Là, ça commence à devenir un problème. Et les problèmes sont toujours des graines que l'on prend dans le passé et qu'on projette comme étant problématiques dans l'avenir. Quand on travaille sur la notion verticale du temps, tous les problèmes s'effacent. Il ne reste que l'action du moment, de ce qu'on fait ici et maintenant. Donc la question à se poser, c'est, puisque le problème n'existe pas, quelles graines je plante là maintenant ? Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et c'est là que le travail sur soi prend toute son importance. Alors je dis le travail sur soi parce que, entrer dans des notions de verticalité du temps, en ayant une demande qui est très claire et en faisant confiance au processus, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose qu'il faut faire en étant un petit peu accompagné. Là, on peut être tous d'accord mentalement parce que cérébralement, on arrive tous à comprendre qu'effectivement, projeter dans une réalité, ça fonctionnerait. Mais cette notion de verticalité du temps, c'est pas quelque chose qui se mentalise. C'est vraiment quelque chose qui se vit. Donc, entrer dans la verticalité du temps, c'est oublier... Arrêtez d'aller chercher les graines de problèmes dans le passé pour les jeter dans l'avenir ou les jeter des graines anti-problèmes dans l'avenir, quoi. Si par exemple, vous localisez un problème dans le passé, je prends un exemple qui intéressera tout le monde, c'est j'ai pas d'argent, j'ai pas suffisamment d'argent pour vivre. Donc, si vous projetez le problème dans le futur, donc je vais avoir des problèmes avec la banque, votre réaction sera de prévenir le problème en cherchant avant tout à rassurer le banquier, par exemple, ou à emprunter de l'argent pour éviter le problème. C'est ça que j'appelle d'ailleurs les graines anti-problème. C'est une solution pour ne pas avoir le problème. 50% de votre temps et 90% de vos réflexions seront portées sur le problème, sur rien d'autre que le problème. Et vous allez tellement voir arriver le problème, vous avez tellement donné d'importance au problème, même si c'est un problème qui n'existe pas, hein, même si d'un seul coup vous avez une somme d'argent qui arrive sur votre compte, ou peu importe, même si votre banquier vous dit non, vous inquiétez pas, moi le nombre de fois où ça m'est arrivé, où j'avais vraiment des gros problèmes financiers, et en fait j'étais tellement concerné, je me sentais tellement responsable de ça, que je m'angoissais, et finalement je me disais bon, faut vraiment que j'aille voir mon banquier. Et j'arrivais à la banque, il me dit « Ah, comment ça va ?» et tout. J'ai dit « Oui, oui, ça va super bien, mais apparemment vous n'avez pas vu mon solde. » Il me dit « Non, mais franchement, vous inquiétez pas, j'ai super confiance en vous, vous êtes tellement rigoureux, vous savez, non, vous êtes un gros bosseur. Non, je pense que, voilà, il y a d'autres clients, honnêtement, je me méfierais, mais vous, franchement, je me méfie pas. » Donc en fait, pour lui, c'était pas un problème, c'était moi qui étais en train de projeter un problème. Et ça occupait 50% de mon temps et 90% de mes réflexions. J'étais porté sur le problème. En revanche, si vous vous mettez dans la verticalité du temps, vous vous souciez pas du banquier. Vous posez des actions qui vont dans le sens de votre confort financier. En gros, vous perdez pas de temps à vous préoccuper du problème. Vous construisez votre vie rêvée. Donc, je peux comprendre que ce que je dis peut paraître un peu compliqué. C'est parce qu'on est en face d'une façon de voir les choses tout à fait originale par rapport à ce qu'on a l'habitude de penser. Donc, on va prendre un exemple simple et qui va parler à tout le monde. Imaginez un camembert, voilà. Tu sais, Caroline, les camemberts des statistiques, là, qu'on voit, les camemberts rouges ou bleus, oui, ou verts. Voilà, on va imaginer ça. Et on imagine que vous pensez à vos problèmes d'argent, de boulot, et que vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous en sortir et vous projeter dans l'avenir ces problèmes qui arrivent. Vous pouvez considérer que 90% de vos réflexions sont concentrées sur les problèmes et seulement 20% sur les solutions. Donc, maintenant, imaginez, donc vous imaginez ce camembert, 90% de vos réflexions égale problème, donc vous les mettez en rouge dans votre idée, dans votre visualisation du camembert, et vert, seulement 20% sur les solutions. Ça fait peu. Maintenant, et encore j'ai dit 90, donc c'est 10. 90% des réflexions concentrées sur le problème, donc seulement 10% sur les solutions. Maintenant, vous imaginez que vous arrivez à être au présent, en train de travailler à l'élaboration de votre vie rêvée. Vous vous souciez pas du problème, vous ne projetez rien dans l'avenir qui soit problématique, et soudain, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est 90% de vos réflexions qui sont portées sur des solutions, donc vous le voyez, votre camembert en vert, et seulement 10% qui sont portées sur le problème. Qu'est-ce qui se passe alors dans ces cas-là ? Ben, je vais vous le dire. vous voyez absolument toutes les opportunités qui vous aident à obtenir ce que vous voulez. Vous voulez de l'argent ? Vous voyez les opportunités qui peuvent vous en fournir. Vous voulez un job ? Vous voyez les opportunités de faire le job que vous voulez. Vous voulez une conjointe idéale, un conjoint idéal ? Vous allez rencontrer cette personne. Et il n'y a absolument rien de magique derrière tout ça. Moi, j'essaye de travailler sur des concepts qui sont extrêmement terre à terre. C'est juste que vous êtes enfin disponible pour le voir. C'est tout, il n'y a rien de magique. Vous êtes juste enfin disponible pour le voir. Avant, c'était là, mais vous étiez tellement en mode problème, projeté sur l'avenir, que vous ne pouviez pas voir ce qui se passait devant vous. Je vais vous raconter une petite...
Oui ? Oui, j'ai une petite question parce que je t'écoute et je fais l'exercice un peu en même temps sur mon petit papier à côté de moi et j'arrive pas à... tout ce que tu as expliqué avant, j'arrive tout à fait au niveau de comprendre, mais j'arrive pas à le marquer sur, enfin, à l'élaboration de ma vie rêvée par rapport à comme quoi que ce soit. Je n'arrive pas à l'écrire de manière à ce que ça puisse produire ce que tu dis après.
Alors, on va le voir.
Il y a quelque chose de travers. Il y a quelque chose que je veux faire de travers.
Non, en fait, c'est que tu es comme tous, et tant mieux, parce que ça veut dire que t'as une jolie ambition dans ta vie, c'est que tu es pressé justement à essayer d'obtenir tout de suite le résultat avant de comprendre le processus. Et en fait, donc c'est tout à ton honneur. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre que tout fonctionne avec les bonnes informations. C'est comme si aujourd'hui tu avais toutes les pièces d'un puzzle et que tu me disais que t'arrivais pas à le faire alors que je t'ai pas encore dit ce que ça représentait. Donc
d'accord.
Laisse-moi juste terminer sur cette anecdote que je voulais raconter, parce que vous allez justement comprendre par là, puisque tout le monde a vécu ce genre de situation, et par le fait que justement tout le monde ait vécu ce genre de situation, on comprend justement la part qu'on laisse au problème et la part qu'on laisse à la solution. Oui. Un jour, un de mes amis est venu passer 3 jours chez moi. Et en fait, il est venu parce que je savais qu'il traversait une période un peu difficile, donc je lui ai dit, écoute, viens à la maison, il n'y a pas de problème. Entre le moment où il a décidé de venir chez moi et le moment où il est arrivé, j'avais, moi, des choses dans ma vie qui pouvaient aussi l'intéresser. Mais lui, il était vraiment pas très bien. Et sitôt arrivé, il a commencé à se confier sur cette période difficile. Et il s'est confié. Et il s'est confié, et il s'est confié, et il s'est confié, des heures, des heures, des heures, il parlait, il rentrait dans tous les détails de tout ce qui se passait dans sa vie. Moi j'écoutais, j'arrivais pas à en placer une, et autant te dire, Caroline, et tu le sais bien, que pour arriver à me faire taire, faut quand même être un peu costaud. Bon, bref, j'avais moi une proposition à lui faire, une proposition qui probablement pouvait le sortir de ses problèmes, mais... J'attendais évidemment qu'il veuille bien me laisser un peu de temps pour lui expliquer. Eh ben, ça a été impossible. Je commençais mes phrases en lui disant quand même, imaginez la porte que je lui ouvre. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Donc c'était quand même une entrée en matière plutôt positive. Et je me disais qu'avec une entrée en matière comme ça, mais j'aurais pu aussi bien lui dire, non mais j'ai ce qu'il te faut, j'ai une solution pour toi. J'aurais pu lui dire n'importe quoi. De toute façon, j'arrivais pas à aller plus loin que ça. Il me coupait la parole pour me raconter encore des milliers de détails sur son problème. Et ça... C'est arrivé au moins 20 fois. Au moins 20 fois, je lui dis, j'ai une très très bonne nouvelle pour toi. Ben, tu sais quoi, arrête de te prendre la tête, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que je te dise. Et au final, 3 jours plus tard, il est reparti chez lui et j'ai pas pu lui dire que j'avais sa solution. Le pire dans tout ça, c'est que quelques jours plus tard, il m'a reproché de pas l'avoir aidé quand il était chez moi. Il m'a dit, j'étais en détresse, j'étais pas bien, je sais que toi tu as des solutions et tu m'as absolument pas aidé. Et j'ai trouvé ça incroyable. 20 fois, j'ai essayé de l'aider, mais justement, son pourcentage de réflexion pour sortir du problème, il était tellement mince qu'il pouvait pas entendre. Il pouvait que se plaindre. Il était en mode problème et à aucun moment, il a ouvert la porte aux solutions. Donc, il pouvait pas les voir. Et vous, quand vous dites, j'ai un problème d'argent, j'ai pas suffisamment réussi dans ma vie, j'ai pas le bon job, vous êtes en mode problème et vous ne voyez que ce qui va conforter ce mode problème, c'est-à-dire le patron désagréable, le solde de compte en banque négatif, enfin voilà quoi. Vous allez vraiment poser toute votre attention sur ce qui ne va pas. Or, si vous commencez à ouvrir votre esprit et vous mettre en mode solution. Vous dites, je ne sais pas comment fonctionne le processus, j'ai pas besoin d'être botaniste pour planter une graine de rosier, je sais juste que le processus fonctionne. Aujourd'hui, je m'ouvre à trouver les solutions et je vais les voir. Et le nombre de gens, parce que là, je commence à avoir de l'historique maintenant sur mon programme de réussite professionnelle, l'accompagnement à la réussite, les gens m'envoient des mails en disant, c'est incroyable, Laurent, depuis que j'ai commencé ton programme, j'ai des opportunités, j'ai des gens qui me proposent de travailler avec eux. Il y en a un qui m'a dit, j'arrive même pas à assumer puisque je gagne maintenant 5 fois plus que je gagnais avant. Aujourd'hui, je me fais des mois à 5000 euros, j'arrive même pas à les gérer tellement ça va vite. Mais en fait, je leur dis, mais il n'y a absolument rien de magique dans le programme. C'est juste que vous avez payé un programme qui vous dit, mettez-vous en mode solution, passez en mode solution. Et on va régler un par un ce qui vous empêche de passer en mode solution. Donc en fait, ils travaillent sur eux, ils s'ouvrent, ils se mettent en mode solution, ils s'ouvrent à toutes les opportunités, ils les voient. Et après, il m'envoie des mails en disant, ah, c'est génial. Mais c'est pas plus génial que ce qui se passait 3 mois plus tôt. C'est juste que là, ils ouvrent les yeux et ils voient des choses qu'ils ne voyaient pas. C'est comme quand on cherche ses clés. C'est toujours au moment où on dit, bon, allez, c'est bon, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça. C'est 3 heures que je tourne dans mon appartement pour trouver mes clés. Et bingo, elles sont là. Alors, elles sont dans le frigo, ou elles sont à la tasse de nuit, ou elles sont sur le siège sur lequel vous êtes assis. Mais peu importe, c'est à ce moment-là qu'on les trouve. D'ailleurs, il y a une phrase assez connue que j'aime beaucoup qui dit, les clés sont toujours posées au dernier endroit à l'endroit où on les trouve. Et c'est toujours ça, quoi. Donc en fait, il faut arrêter de projeter le problème, parce que ce problème va cannibaliser l'intégralité de votre réflexion et ne laissera plus de place à la solution. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'existe pas de 50-50 dans le camembert. Ça, c'est ce que tout le monde aimerait penser. Soit on est l'un, soit on est l'autre, soit on est dans le problème, soit on est dans la solution. Et c'est ça, ce que je vous disais, c'est le principe du programme d'accompagnement à la réussite, c'est justement de passer en mode solution, et c'est pour ça, entre autres, que ça marche. Donc, alors, pour se mettre dans la verticalité du temps, il y a deux choses à faire, et c'est là que je rejoins ce que tu posais comme question tout à l'heure, Caroline. Il y a deux choses à faire, il faut savoir ce que l'on veut, et il faut savoir qui l'on est. Savoir ce que l'on veut, c'est le sujet du second point, qui est l'expression de la demande. Donc par exemple, si tu veux quelque chose de particulier, Caroline, dans ta vie, tu fais la liste des choses qui te plairaient de la manière la plus simple possible. C'est pas la peine de dire je veux 1 253 894,94 €, tu vois, sur mon compte. Tu dis je veux ressentir la satisfaction d'avoir assez d'argent pour vivre tranquillement, confortablement, pour acheter la maison de mes rêves. Donc c'était de ça que tu parlais tout à l'heure?
Oui.
Voilà, donc ça, par exemple, c'est ça. Si tu vises un conjoint agréable, tu peux décider que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas partager simplement, tranquillement, des valeurs qui sont les tiennes, sur un intérêt commun pour le travail que tu fais, le travail qu'il fait, que ce soit quelqu'un...
Pour le conjoint, tu avais bien expliqué juste avant, mais c'était pour le reste que je...
Pour le reste, c'est toujours la même chose. On part toujours du principe qu'on ne cherche pas quelque chose en particulier, mais qu'on cherche une émotion. C'est ce que j'appelle dans mon programme, c'est le pourquoi émotionnel. Pourquoi on veut les choses, pour vivre quoi? Donc si tu veux par exemple de l'épanouissement professionnel, c'est pour vivre quoi émotionnellement? Par exemple, il y a des gens qui vont... Enfin moi par exemple, j'aime la jubilation. Ce que je fais, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment là, pendant que je suis en train de faire cette conférence, je jubile, j'adore ça. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de livrer des informations qui sont importantes pour les gens, ce sont des informations qui ont été importantes pour moi, et ça provoque un état de jubilation intérieure, et franchement, je ne veux pas passer ma vie à faire autre chose que produire des actions pour vivre ce sentiment intérieur. Quand je rencontre des gens, je veux que ce soit des gens qui me fassent jubiler. Alors il y en a qui ne me font pas jubiler, mais en tout cas avec qui je peux partager des situations ou des événements de ma vie qui vont me faire jubiler. Et c'est vraiment ça. Donc, quel est ton pourquoi émotionnel principal? Alors, est-ce que c'est un état de satisfaction? Est-ce que tu veux te sentir fier de toi? Est-ce que tu veux simplement la tranquillité, la paix? Est-ce que tu veux vivre le sentiment de liberté? Est-ce que tu veux te retrouver en confiance intérieure? Est-ce que, alors, par exemple, la sécurité, les gens qui me disent, moi, c'est me sentir en sécurité. Alors, la sécurité, c'est l'expression de l'anti-problème, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a été très, très en insécurité, Donc maintenant, on veut la sécurité. Et la sécurité, c'est pas l'expression magnifique de ce qu'on veut, c'est l'expression apeurée de ce qu'on aimerait bien protéger. Et donc il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut faire attention. Par exemple, il y a des gens qui me disent, moi, la vraie émotion magnifique que je ressens à faire ce travail, par exemple, je prends le cas d'une femme qui fait de la médecine énergétique, elle me dit c'est le sentiment d'indépendance. Alors le sentiment d'indépendance, c'est pareil, c'est un anti-problème. Les gens qui veulent être indépendants sont des gens qui se sont battus pour être eux-mêmes sans être dépendants d'autres gens, et donc ils sont en réaction à cette dépendance contre laquelle ils se sont battus et ils veulent être indépendants. Indépendant, c'est le contraire de dépendant. Donc en fait, ce qu'ils cherchent, c'est la liberté, ou ce qu'ils cherchent, c'est l'autonomie. Je me sens autonome, je me sens capable de m'en sortir par moi-même, ou je me sens capable. Se sentir capable, c'est un pourquoi émotionnel absolument honorable. Se sentir puissant, se sentir complet, se sentir heureux, ça c'est le pourquoi émotionnel. Donc il faut vraiment trouver, que ce soit pour le conjoint, pour la vie de famille ou pour peu importe, il faut trouver les émotions qui vont coller avec ce que tu veux vraiment vivre, quoi. Donc ça, c'est savoir ce que l'on veut. Donc dans le par exemple, le pourquoi émotionnel de mon travail, c'est la jubilation. Mais le pourquoi émotionnel de ma famille, par exemple, ça peut être autre chose. Le pourquoi émotionnel de mon couple, par exemple, c'est la tendresse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des fantasmes extraordinaires. Moi, j'appelle ça des fantasmes du quotidien. Moi, j'aime prendre la main à la femme que j'aime. J'aime lui prendre la main dans la rue. Moi, je suis très, très heureux avec ce genre de choses. Alors, j'ai des amis qui trouvent ça... des amis hommes qui trouvent ça tout à fait ridicule et complètement obsolète, mais moi je leur dis, bah, écoutez, voilà, vous prenez votre plaisir comme vous voulez, mais c'est vrai que moi, prendre la main de la femme que j'aime, je trouve que c'est tellement beau, je suis tellement heureux de vivre ça, que j'ai pas de fantasme plus fort que celui-là. C'est vraiment la satisfaction du partage amoureux, d'être deux, ou d'être, on peut dire, une équipe, ou d'être des alliés, ou d'être, voilà, de faire le chemin côte à côte. Ça, c'est une satisfaction que je ressens même en vous en parlant là. Donc c'est vraiment une satisfaction qui m'est très très personnelle, et il y en a d'autres, ils veulent vivre des choses extraordinairement, émotionnellement très très fortes, la passion, le ceci, le cela. Donc il faut vraiment arriver à savoir ce qui nous convient le mieux, et ensuite c'est possible de rencontrer des gens qui s'y adaptent, parce qu'ils cherchent eux aussi quelque chose comme nous. Donc savoir ce que l'on veut, c'est le sujet de l'expression de la demande, il faut vraiment poser ça. Une fois que vous savez ce que vous voulez vivre, après, dans quel environnement et avec quel type de relation sociale, amicale, familiale ou sentimentale, là, vous commencez à être OK, la graine commence à vraiment prendre forme. Et une fois que votre demande est claire et établie en fonction de ce que vous voulez vraiment, mais alors j'insiste sur vraiment, et non pas juste ce que vous voulez, ou ce que vous aimeriez, ou ce qui serait moins pire que le reste, non, ou pas ce que vous ne voulez pas, vraiment ce que vous voulez vraiment. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai été élevé dans un environnement où c'était tellement difficile de rêver que je me disais, ou en tout cas d'imaginer qu'on pouvait obtenir ce qu'on voulait, que je me disais, je me marierais, mais je disais ça, j'avais 10 ans à peu près, entre 10 et 12, je me disais, je me marierais avec la fille qui est la moins pire. Et c'est vraiment l'expression de ce que je ne voulais pas, ou c'est l'expression de ce que j'imaginais pouvoir recevoir un jour. Et si j'avais pas transformé cette pensée, imaginez ce que le processus s'est bien amusé à me donner les moins pires, qui étaient quand même pas les meilleurs, mais le processus s'est bien amusé à mettre dans ma vie des gens qui étaient les moins pires. Mais bon, après je me suis dit petit à petit, et si, alors ça c'est toute l'ambition du petit Laurent dans sa banlieue, et c'est peut-être justement ce qui m'a sauvé. Je me disais, et si je méritais mieux, et si j'avais le droit, moi, de demander aussi des cadeaux à Noël, et si j'avais le droit, moi, de demander aussi des cadeaux à Noël, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré, quoi, des gens formidables, une situation qui me convient, un métier que j'aime, des gens qui sont reconnaissants, attentifs, et pas constamment des gens qui se demandent si je suis pas sorti de la planète Mars parce que j'avais des ambitions un peu élevées, ou parce que j'étais un peu créatif, un peu artiste. Donc voilà, c'est ça, je me suis autorisé à imaginer que je pouvais avoir mieux, et forcément, le processus étant toujours le processus, petit à petit, bah, j'ai commencé à rencontrer mieux dans ma vie, quoi. Donc, une fois que vous savez ce que vous voulez vraiment, vous avez fait à peu près 50% du boulot, plus qu'à faire jour après jour ce qui doit être fait. C'est-à-dire, vous voulez une maison en bois dans une forêt des Laurentides, par exemple, ok. Donc vous posez chaque jour, au présent, des actions dans ce sens. Et vous faites confiance au processus. Et là, il ne peut se passer qu'une seule chose, c'est que vous l'aurez. Vous voulez une grande maison avec des enfants joyeux qui courent partout, un barbecue avec des amis, des gens qui s'aiment, une famille solidaire, une tradition partagée, posez des actions dans ce sens. Chaque jour, à chaque instant, à chaque minute. Et au présent, évidemment, quand vous ne dites pas « demain, je poserai », non, vous les posez maintenant. Et forcément, le processus étant ce qu'il est, vous l'obtiendrez. Tu sais, Caroline, au plus profond de mes difficultés financières, sentimentales, familiales, sociales, etc., ce qui m'a sauvé, c'est ça, vraiment, c'est ça. Et à l'époque, je me disais « ne pense pas, fais ». Arrête de réfléchir, fais. Arrête de t'inquiéter, fais. Pose des actions, pose des actions. Et ne t'inquiète pas de savoir comment les choses vont se faire. Tu serais trop prétentieux d'imaginer que tu as le pouvoir de faire. Non, tu poses tes actions les unes après les autres. Il n'y a que ça de vrai. Mais mon problème à l'époque, c'est que peut-être j'étais un peu rigide et j'avais une détermination qui n'était pas véritablement saine parce que c'était uniquement dans le faire. Je posais des actions pour faire. Alors ok, je me suis sauvé de toutes mes difficultés financières, mais j'avais juste oublié une chose essentielle, que c'est juste moi intérieurement. Donc aujourd'hui, avec le recul, je suis en mesure de proposer autre chose. Je suis en mesure de dire ce qui peut vraiment surmultiplier la réussite. Et c'est un exercice que je fais très souvent dans les ateliers sur la réussite que je fais seul ou qu'on fait avec Luc Marie, où ils sont aussi beaucoup dans mes programmes. Ça s'appelle les trois mots. Donc si les gens me connaissent un peu ou s'ils ont suivi mes conférences ou mes ateliers, ça va leur rappeler des souvenirs. Effectivement, j'insiste beaucoup là-dessus, les trois mots. Alors ces trois mots, vous pouvez les déterminer là, hein, en écoutant la conférence, ou peut-être les trouver plus tard, peu importe. Parfois les gens ont besoin de réfléchir un peu. Donc ces trois mots, ce sont les trois mots qui détermine ce que vous êtes de mieux. C'est la plus haute idée que vous vous faites de vous-même. Ces trois mots simples qui expriment finalement le meilleur de vous. Donc les miens, je vous donne un exemple, mais je ne suis pas une référence, c'est vraiment juste mes mots à moi pour vous guider. Les miens, ce sont élégance, intelligence, curiosité. L'élégance, c'est ce que je veux donner comme image de moi aux autres, c'est ce que je veux me donner comme image de moi à moi-même. L'intelligence, parce que je pense qu'en fait il faut que je porte mon esprit à trouver ce qui justement sera proche du bon sens, sera proche de l'intelligence universelle, de l'intelligence du cœur. Ça c'est très très important pour moi. Et je sais que ce qui m'a sauvé dans ma vie, c'est ma curiosité. J'ai toujours été curieux de ce que faisaient les gens, de ce qu'ils disaient. J'ai toujours entendu les choses. J'ai toujours prêté attention. Alors, je suis un grand bavard. Il y a beaucoup de gens qui diraient, mais est-ce qu'il a vraiment écouté ce que je lui ai dit? Mais il se trouve que oui, parce que je suis tellement curieux que parfois les gens ne savent pas que je sais beaucoup de choses sur eux, simplement parce que je me suis intéressé à eux. J'ai été curieux. Et souvent, moi-même, je suis surpris quand les gens ils me disent, mais comment tu sais ça? Ben, je sais pas, je t'ai vu faire ci, faire ça, j'en ai déduit que quoi. Ah, mais c'est incroyable. En fait, tu intéresse vachement aux gens. Bon, déjà, c'est mon job maintenant, mais c'est vrai que c'est, ma curiosité m'a toujours porté vers quelque chose de mieux. Donc, mes trois mots, élégance, intelligence, curiosité, pour moi, ce sont les trois mots qui expriment le meilleur de moi-même. Mais ça ne veut pas dire que je suis ça tous les jours. Des fois, je suis stupide, acariâtre et feignant. Ça arrive moins souvent parce que justement, j'ai fait cet exercice des trois mots et je m'y tiens. Mais je suis potentiellement aussi un grand crétin. Donc, l'idée, c'est pas de se dire je suis ces trois trucs là et je me définis comme étant ces trois trucs là et je me la raconte maintenant dans les dîners mondains en disant moi maintenant je suis élégant, intelligent et curieux. Non, en fait c'est pas du tout ça. C'est vraiment se dire j'ai trois maîtres mots et c'est vers ces trois maîtres mots que j'ai envie de me diriger. C'est vers ces trois maîtres mots que j'ai envie d'orienter ma vie, d'orienter mes pensées, d'orienter mes relations, d'orienter mes actions, et finalement d'obtenir le résultat de tout ça, c'est-à-dire des situations dans lesquelles à la fois je peux faire preuve d'élégance, d'intelligence et de curiosité. Donc, je pense que c'est la plus belle idée de ce que je suis, et ça représente ces trois mots. Donc vous pouvez choisir les vôtres dans des thématiques qui sont tout à fait différentes. Vous pouvez choisir, je sais pas, il y en a plein, il y a des gens qui m'ont dit le charme, la liberté, la clairvoyance, la justice par exemple, la grâce. Il y a des gens qui disent, moi c'est ancrage. Alors effectivement, c'est une idée bien belle. Alors, par exemple, mon ami et binôme Luc Marie-Lissa, lui, dans ces trois mots que je ne connais pas, il pourrait mettre ancrage, parce que je sais que c'est quelqu'un qui cherche vraiment à s'ancrer. Tu le connais d'ailleurs, car Caroline, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui est très très présent, et à chaque fois qu'il dévie, à chaque fois qu'il sort de son centre, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'il est dans la meilleure idée de lui-même quand il est ancré, parce qu'il est là et il peut vraiment proposer des choses qui sont intéressantes. Il y a aussi la dignité, l'autonomie, le luxe est quelque chose que vous pouvez déterminer comme vos trois mots. Le calme, alors luxe, calme, volupté, ça a été trois mots que j'ai eu pendant longtemps, luxe, calme, volupté, et puis je suis parvenu à vivre le luxe, le calme, la volupté. Alors je me suis dit, il faut que j'en trouve trois autres, mais en fait vous pouvez les changer, hein. C'est pas trois mots qui resteront gravés dans le marbre de votre cerveau, c'est trois mots qui correspondent aujourd'hui à la plus haute idée de vous-même. Tout ça est un exercice très libre, hein. Je veux dire, on n'est pas tenu de trouver les trois bons mots aujourd'hui dans la seconde. On peut en trouver deux, on peut en trouver trois. Moi avant j'avais aussi élégance, intelligence et clairvoyance, je crois. C'était le troisième mot. Je l'ai oublié d'ailleurs tellement curiosité est venue prendre le pas dessus. Et en fait je me suis rendu compte que clairvoyance c'était pas forcément quelque chose qui correspondait à la plus haute idée de moi-même. En tout cas pas autant que curiosité, alors j'ai choisi curiosité. Donc il faut vraiment trouver trois mots, mais être libre de les changer, peu importe, mais il faut être dans ces trois mots. En fait, vous pensez aux mots que vous voulez, du moment que ça évoque pour vous la plus haute idée de vous-même. Donc une fois que vous avez ces trois mots, je vais vous dire ce qui va se passer au risque d'avoir l'air d'exagérer. Eh bien, vous allez tout réussir, vraiment tout réussir. Et vous allez comprendre pourquoi, on va faire une petite expérience. Il est possible que vous ayez en ce moment un conflit avec quelqu'un. Donc vous qui nous écoutez, pensez à cette personne et voyez comme le simple fait de penser à elle réveille une colère. Ça réveille de la rancœur, ça réveille de l'animosité. Voyez comme juste l'idée de cette personne dans votre tête qui n'est pas en face de vous, hein, ça réveille cette colère. Maintenant, imaginez que dans vos trois mots, il y ait le mot « élégance ». Est-ce que d'un seul coup, vous vous trouvez vraiment élégant dans cette colère? C'est absolument impossible. Vous lui laissez la responsabilité de ce qu'il est et vous, vous prenez la responsabilité de ce que vous êtes, c'est-à-dire l'élégance. Ces trois mots vont vous sortir de toutes les angoisses, de tous les conflits, de tous les problèmes. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas réagir en fonction de ça, c'est-à-dire réagir, c'est-à-dire donner un retour à l'action, être câblé, être branché, être attaché au problème. Vous allez vous séparer de tout ça et vous allez dire « moi je suis l'élégance, je suis l'intelligence et la curiosité ». Et parfois, on est en face de gens à qui on aimerait bien mettre un gros coup de pied aux fesses et dire « écoute là, vraiment tu commences à me… hein ?» Et en fait, là, on se dit, non, je suis l'élégance, je suis l'intelligence et la curiosité. Et l'élégance, eh ben, ne se comporte pas comme ça. Donc, je lui laisse la responsabilité d'être un crétin notoire. Et moi, je suis l'élégance. Et point final, quoi. Je ne laisse pas l'autre cannibaliser mon énergie, parasiter mon énergie avec son désir de créer un conflit avec moi. Je suis l'élégance, point final. Donc imaginez que cette personne c'est votre banquier par exemple, ça devient toujours beaucoup plus drôle quand on parle du banquier. Donc si vous savez ce que vous voulez vraiment, si vous connaissez les trois mots qui expriment la plus haute idée de vous-même, comment pouvez-vous imaginer être déstabilisé par ce type qui vous dit « c'est pas possible, vous avez un compte en banque qui va pas » ou alors un patron qui vous dit « oh je suis absolument pas satisfait » etc. C'est absolument impossible. Comment allez-vous faire pour vivre le problème ? Vous n'aurez pas le problème, c'est plus possible. Le problème n'existe plus. Vous êtes passé en mode solution et vous êtes au présent avec vos trois mots, avec ce que vous voulez vraiment et vous appliquez, vous êtes dans l'application de ce que vous souhaitez et qui est bon pour vous. Vous n'êtes pas dans une projection que vous ne l'aurez jamais, vous êtes juste au présent en train de dire « ok, je suis en mode solution, je pose maintenant quelque chose qui me correspond à moi, l'expression de ma demande, ce que je veux ». Et l'expression de qui je suis, la plus haute idée de moi-même, ce que je suis. Et donc, un jour, je me suis retrouvé parce que on va m'illustrer.
Excuse-moi de t'interrompre. Excuse-moi de t'interrompre pour parce qu'en fait, il va falloir aller vers la conclusion parce qu'on a déjà dépassé de 7 minutes. Juste simplement pour te dire.
Voilà. Ah oui, mais moi,
on est pendu à tes lèvres. Allez, voilà.
Moi, il faut m'arrêter. T'as bien fait, c'est très bien. Il faut m'arrêter. Donc, juste pour illustrer, j'ai un banquier un jour qui m'a dit, Monsieur Marchand, ça va pas du tout. Vous avez vu votre solde et tout. Et je lui ai répondu, ok, je suis d'accord avec vous. J'ai un solde débiteur important. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est pas le solde de mon compte. C'est le fait que je sais que ça va pas durer. Et en fait, il m'a regardé bizarrement, il a dit « Ok, Bon, vous avez raison. J'ai dit, ne vous inquiétez pas, l'important, c'est que je sois absolument sûr de m'en sortir. Bon, intérieurement, je ne savais pas comment, mais en tout cas, j'étais sûr. Donc, la conclusion. Si je récapitule, vous savez faire des demandes claires portées sur ce que vous voulez vraiment vivre. Si vous faites confiance au processus, sans douter une seule seconde du processus, parce que de toute façon, c'est une perte de temps, le processus, c'est le processus. Si vous posez des actions sans référence au passé et sans projeter vers l'avenir, c'est-à-dire en restant dans la verticalité du temps, là, maintenant, tout de suite, et si à chaque instant vous incarnez les trois mots qui révèlent la plus haute idée de vous-même, alors il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez devenir riche, vous allez devenir très riche, vous allez réussir professionnellement, vous allez vous épanouir professionnellement, vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent vraiment, qui sont bénéfiques pour vous, vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre, vous allez rencontrer ceux qui vous feront votre bonheur, vous allez vraiment vivre votre vie idéale. Et c'est en ça que je vous dis, c'est le saint graal de la pensée créatrice, cette verticalité du temps, parce que on ne fait rien d'autre qu'appliquer les choses. Vous pouvez toujours dire, j'ai une graine super, mais quand est-ce que je vais la planter dans mon pot? Ah, mais si je la plante dans mon pot, est-ce que je vais pouvoir penser à l'arroser? Et puis, est-ce que je serai capable de... De toute façon, vous obtiendrez rien parce que vous passez votre temps à réfléchir au problème. Si vous dites, je prends la graine, je plante la graine, je recouvre la graine, j'arrose la graine, je place la graine au soleil ou dans des bonnes conditions, j'obtiendrai un rosier et je m'occuperai du rosier chaque jour le mieux que je peux. Là, vous êtes absolument sûr que en faisant chaque chose, vous obtiendrez le résultat de ce que vous voudrez. Et si ça vous paraît flou, ne vous inquiétez pas. On va faire un programme gratuit, c'est ça que je voulais vous proposer. Donc, un programme gratuit que je vais vous proposer sur mon site, vous allez tout comprendre très facilement. La verticalité du temps, c'est pas quelque chose qui doit être compris par le mental, je vous l'ai déjà dit. Ça doit être expérimenté. Donc, vous allez télécharger le programme en allant directement sur mon site. C'est soyezheureux.com et vous cliquerez sur le programme Sommet 2012 et vous démarrerez les exercices chaque jour et pendant un mois on va travailler sur la verticalité du temps et sur le fait d'appliquer des choses les unes après les autres. Voilà, sinon je vais m'arranger pour le mettre dans les commentaires, donc juste en dessous des conférences sur le site du Sommet Mondial de la Réussite, et je vous indiquerai le lien pour aller télécharger ça. Donc vous cliquez, c'est entièrement gratuit, c'est sans aucun engagement, mais c'est juste pour que vous puissiez faire au moins durant un mois l'exercice de la verticalité du temps. Et pendant un mois, je vais vous accompagner et je vais vous aider à installer cette verticalité du temps, donc on va faire des exercices pour ça, et je vais vous aider à vous mettre en mode solution en fait, et à savoir comment exprimer vos demandes en fonction de ce que vous voulez vraiment. Donc on travaillera aussi sur les trois mots qui expriment la plus haute idée de vous-même, etc., etc. Et vous verrez que vous vivrez une succession de miracles incroyables. Vous les appellerez des coïncidences, de la chance, l'acceptation. Les gens qui me disent, ouais, c'est du lâcher prise en fait. Si vous voulez, peu importe. Moi, ce que je garantis, c'est pas le terme, c'est ce que vous allez vivre. Et ce que vous allez vivre, ça va être véritablement essentiel pour vous. Et vous allez faire des grandes, grandes découvertes. Après, vous appellerez ça comme vous voudrez. Mais en tout cas, une chose est sûre, vous allez vraiment radicalement transformer votre vie. Donc, avant de terminer, je voulais dire à tous ceux qui ont écouté cette conférence, vraiment merci d'une part parce que c'est un bonheur pour moi de partager sur ces sujets-là, mais aussi parce que je trouve ça vraiment courageux de votre part, je trouve ça vraiment très très honorable d'aller, comme vous le faites, chercher des informations qui peuvent vous rendre plus heureux. Et ça, c'est la garantie pour moi que j'ai affaire à des gens qui comprendront ce que je vais leur dire parce que vous n'êtes... Finalement, vous êtes déjà en train de transformer votre esprit et non pas de rester là. Pendant une heure, vous n'étiez pas en mode problème, vous étiez en mode solution. Et si vous avez conscience de ça, franchement, votre vie entière est sauvée. Comme moi, le jour où je me suis dit, mais en fait, finalement, là où il y a des tas de gens qui restent, je vais être vulgaire pour une fois, le cul rivé dans leur fauteuil, moi, je bouge, je vais chercher les informations, je vais écouter des conférences, je vais lire des livres qui m'ont élevé, qui vont me porter vers un meilleur avenir. Donc ça, c'est il faut juste ça pour devenir heureux, riche, etc. Il faut juste cette petite volonté de faire le pas. C'est ça le courage pour moi. C'est cette petite volonté de sortir de son canapé et de commencer à aller chercher des informations. Et vraiment, je voulais vous dire merci. C'est pour ça que j'ai envie de vous proposer quelque chose qui soit vraiment utile pour vous et qui puisse vraiment vous accompagner. Et pendant un mois, on va faire ce programme qui s'appelle « Un mois pour faire des miracles ». Donc voilà. Donc j'ai juste pris encore une petite minute pour féliciter les gens et pour les remercier. Mais c'était vraiment très très important pour moi, Caroline.
Mais pas de souci. Je te remercie infiniment, Laurent, pour cette conférence et pour nous avoir passé, nous avoir permis de passer du côté mode solution pour réussir dans notre vie. Merci infiniment à tous de nous avoir écoutés et d'avoir dépassé cette heure de prévue à 13 minutes de plus. Donc voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir, Laurent. Merci beaucoup.
Au revoir, Caroline.